des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission consacrée à la violence politique, à la lutte armée, à la façon dont le roman, dont la littérature peut embrasser cette question de la violence politique. En effet, nous avons la chance de vous proposer une rencontre entre l'homme dont le roman a enflammé l'Espagne et lui a valu un succès considérable dans la péninsule, ainsi que le prix national de littérature. Ce roman, c'est Patria de Fernando Aramburu. Il est aujourd'hui traduit en France par Claude Bleuton chez Actes Sud, et il raconte du post-franquisme à la fin de la lutte armée, l'itinéraire et la tragédie de deux familles basques déchirées par le terrorisme de l'ETA. Face à lui, le romancier français qui est certainement le plus grand connaisseur de la question de cette violence politique, de la lutte armée, puisqu'il a couvert comme reporter le conflit, notamment en Irlande du Nord, qu'il a évoqué dans Mon Traître, paru chez Grasset en 2008, c'est Sorge Chalandon. Bonjour Fernando Aramburu.
Bonjour.
J'en profite pour saluer celle qui est votre interprète aujourd'hui, Paloma Gulmo. Bonjour, Paloma Gulmo.
Bonjour.
Vous êtes Fernando Aramburu, l'auteur de Patria, donc ce roman, je disais qu'il a été un véritable phénomène en Espagne et ça va continuer parce que je crois qu'il y a un projet d'adaptation en série télévisée pour HBO, c'est bien ça?
Aunque hay otro productor anterior.
Il y a également un autre producteur qui s'est présenté avant.
Y que es el responsable narrativo del proyecto.
Y que se ocupa de todo el elemento narrativo del proyecto.
Se incorporó HBO.
HBO se joue en fait a un proyecto que había ya bien pris forma.
Que aportará financiación.
Y donc HBO finance.
Y distribución internacional.
Y lo distribuye sur la escena internacional.
¿Vous savez quand on pourra voir ce film o cette série? ¿Es un film o una serie d'ailleurs?
Bueno, el productor es muy estricto a la hora de dar información.
On va dire qu'il est assez
assez
peu généreux au moment de partager cette information, le producteur. La seule chose que je sais, c'est que pour l'instant, on est en train d'écrire le scénario. Donc, il y a 8 scénarios. Et j'imagine donc que ce sera 12 films, enfin, ou 12 téléfilms.
Et
au final, ils veulent commencer à filmer en automne de cette année.
Alors, votre livre, Patria, a été encensé par Mario Vargas Graciosa, qui a dit qu'il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas lu un roman aussi convaincant, émouvant, si brillamment conçu, ce sont ses mots. Ce roman Patria raconte sur une quarantaine d'années le destin de deux familles séparées et même déchirées par le TA dans le Pays Basque. Deux familles qui ont été unies jusqu'à ce que le père de famille de l'une de ces familles, parce qu'il avait trop tardé à payer l'impôt révolutionnaire, soit assassiné par, pense-t-on, le fils de l'autre famille. Le livre commence le jour où l'organisation indépendantiste basque dépose les armes, provoquant le retour de Bittori, c'est l'épouse de l'homme assassiné, dans le village où a eu lieu la tragédie. C'est un livre copieux, près de 600 pages, mais constitué de courts chapitres qui nous livrent différents morceaux de cette réalité compliquée dans chacun des camps. Ce livre magistral, Fernando Aramburu, a été estampillé par la presse espagnole, quel honneur, le Guerre et Paix basque. Alors, vous savez ce que disait Woody Allen du chef-d'œuvre de Tolstoï ? J'ai lu Guerre et Paix, ça parle de la Russie. Est-ce qu'il aurait pu dire la même chose de votre livre ? J'ai lu Patria, ça parle de l'Espagne.
Hombre, si Woody Allen leyera media página de mi libro, podría afirmar que Patria trata de Vascos.
Woody Allen lisait peut-être une demi-page de mon livre, il pouvait vous dire que ça parle des Basques.
Il ne s'équivocaría.
Et je crois qu'il n'aurait pas totalement tort.
Mais précisément, ma question, c'était est-ce que ça parle de l'Espagne ? Le Pays Basque, oui, mais est-ce que c'est...
Moi, je dirais qu'il parle plus de gens, d'êtres humains, comme vous et moi, qui sont d'origine basque, certes.
Pero esta es una novela bastante viajera, ¿eh?
C'est un roman qui voyage.
Con episodios que transcurren
et puis,
en Londres,
il y a plusieurs épisodes.
Roma,
on va à Rome, on va à Londres, même à Prague, en Allemagne.
En Europa, porque yo entiendo que
tout se passe un peu en Europe, parce que, si je veux être clair, ce que moi je raconte, c'est peut-être un petit morceau de l'histoire de l'Europe.
Tout à l'heure, je vous ai demandé, en dehors de l'émission, si le livre était traduit en basque, en euskara. Et vous m'avez dit que ça n'aurait pas de sens.
Il faudrait déjà avoir une maison d'édition qui me fasse une offre, qui souhaite le traduire.
Tampoco le veo mucho sentido, puesto
en
que
plus, je n'y trouve pas vraiment de sens, parce que je ne crois pas qu'une personne qui va lire le livre et qui est basque ne comprenne pas l'espagnol.
Y la traducción de un libro
et
de
puis
de
un livre traduit qui fait plus de 600 pages, c'est quand même une dure labeur.
Bonjour Serge Alandon.
Bonjour.
Voilà, vous êtes sur le studio en face de Fernando Aramburu. Je le disais en introduction, vous êtes l'un des rares représentants d'une tradition qui était la tradition française, écrivain et journaliste. Journaliste, vous l'avez été, vous avez été grand reporter pour Libération, vous avez œuvré de 73 à 2007, hein, c'est, ouais. C'est bien
34
ça
ans.
34 ans.
Ouais.
Vous y avez publié plusieurs reportages sur l'Irlande du Nord, alors en proie au conflit entre l'IRA et les Britanniques. Vous y avez couvert le procès de Klaus Barbie aussi, qui vous a valu le prix Albert Londres en 1988. Écrivain, vous avez publié 8 romans chez Grasset, dont Une promesse, prix Médicis en 2006, Le quatrième mur, prix Goncourt des lycéens en 2013, sur un metteur en scène qui décide de monter Antigone d'Anouilh à Beyrouth dans les années 80, pendant la guerre du Liban, que vous avez bien connu aussi. Vous venez de publier en 2017 Le jour d'avant, sur la catastrophe minière de Liévin, qui a fait 42 morts le 27 décembre 1974, et sur l'Irlande, on vous doit 2 livres, Mon traître, qui s'inspire de votre histoire personnelle, votre amitié avec Dennis Donaldson, membre de l'IRA provisoire et Sinn Féin, assassiné en 2006 après qu'avait été découverte sa collaboration avec les services secrets britanniques. Et cette histoire, vous l'avez redéployée 3 ans plus tard, dans Retour à Killybegs, qui vous a valu le grand prix du roman de l'Académie française, la même année. Qu'est-ce qui justifiait, littérairement, romanesquement, de reprendre cette histoire sous un autre point de vue, puisque dans Retour à Killybegs, vous faites parler votre traître, là je reprends vos mots, à la première personne.
Ces 2 livres sont publiés en anglais, et mon rêve aurait été qu'ils soient publiés en irlandais, en gaélique. J'ose espérer que si des enfants basques qui ont été dans des Ikastola et qui ne parlent que basque, j'ose espérer qu'ils pourraient avoir la chance de lire ce livre-là aussi, et ils seraient peut-être plus à l'aise avec cette langue-là qu'avec l'espagnol.
On va peut-être demander sa réponse à Fernando Aramburu. Voilà, vous avez entendu ce qu'a dit Serge Chalandon. Est-ce que
c'est l'idée que voilà, juste pour que ça soit accessible absolument à tous.
Sí, bueno, ya dije que en el País Vasco no hay ciudadanos que no entiendan.
Je vous l'ai déjà dit, au Pays Basque, il n'y a pas de citoyens qui ne comprennent pas l'espagnol.
Lado,
mais
libro,
également, ce que je dois ajouter, c'est que mon livre présente une histoire qui n'est pas très favorable au mouvement de l'ETA. Et je crois que pour cette raison, sa présentation en basque sera toujours assez compliquée, voire limitée.
Mes livres n'étaient pas du tout favorables aux Britanniques et ils ont eu l'élégance de le traduire en anglais, même si c'est à Dublin. Pourquoi 2 livres ? D'abord, je suis journaliste et je suis auteur, et c'est vrai. Et le problème, c'est que ce traître-là, qui s'appelait Dennis Donaldson, de son vrai nom, c'était un ami. C'est ce genre de personne qui, dans un pays, vous explique ce que c'est qu'une guerre, vous explique comment elle fonctionne, mais vous explique aussi quelle est la culture de son peuple, quel est ce drapeau qui passe, quel est cet uniforme porté par ce soldat-là. C'est-à-dire que c'est un homme qui vous décrypte les choses. Et puis cet homme est devenu un copain, et ce copain est devenu un ami. Lorsque j'apprends, comme tout le monde, le même jour, que cet ami était un traître, je me suis senti, moi, journaliste, beaucoup trop proche de lui pour faire un article de journal. Et en plus, je me sentais mêlé à l'histoire. Donc je me suis dit, le seul moyen pour moi de m'en sortir, c'est le roman. La première chose, c'est que j'ai commencé à écrire mon traître, puisque je le considérais comme mon traître, et parce que c'est quand même un homme qui disait de temps en temps, je pense qu'il y a un traître parmi nous, le problème c'est qui ? Et l'homme qui vous dit ça est le traître, c'est quelque chose qui est extrêmement sidérant après coup. Quand j'ai écrit mon traître, il y avait 2 choses qui nous manquaient, et qui me manquaient, qui manquaient à tout le monde. Pourquoi il avait trahi ? Et qui l'avait assassiné, puisqu'il a été exécuté le 4 avril 2006. J'ai écrit mon traître qui était le point de vue du trahi. Je me suis appelé Antoine, je suis luthier, puisque chaque fois je prends un petit masque de carnaval, mais en tout cas, je ne suis pas Serge Chalandon, le journaliste. Et je raconte l'histoire du jeune luthier parisien qui tombe amoureux de la cause irlandaise, hein, c'est comme ça, dans ces mots-là, et qui est trahi, et c'est son histoire à lui. Après la mort de Dennis Donaldson, après qu'il ait été enterré, on a su, ça a été revendiqué, qu'il avait assassiné des dissidents non favorables au processus de paix. Et surtout, il y a eu 3 possibilités qui ont été avancées sur sa trahison. Ce n'est pas la trahison de Denis dont je parle, c'est la trahison d'un homme que j'ai appelé Tyrone Meehan, qui est plus vieux, qui est plus âgé.
Mais personnage, le
c'est mon personnage
de papier,
de traître. Mais en tout cas, je me suis dit, moi voilà, je suis un homme. Et là, je suis le trahi. Et j'ai fait un livre sur les larmes du trahi. Si je ne prends pas à bras le corps, qu'est-ce que c'est qu'être un traître? Et si je ne me mets pas à mon tour dans la peau du traître, eh ben, je vais jouer le rôle de la victime. Et je trouve ça assez dégueulasse. Parce que je crois qu'entre... En chaque homme, il y a un bourreau, il y a un héros, il y a un traître, il y a un trahi. Le problème, c'est que chaque homme doit se battre contre ça, contre le mal qui peut être en lui. Et donc, j'ai écrit Retour à Killy Beggs pour être le traître après avoir été le trahi.
Changement de point de vue.
Et étant le traître et le trahi, je faisais le deuil de ma rancœur.
D'ailleurs, pour faire juste un petit point de vocabulaire, ce changement de point de vue, vous l'avez utilisé dans une phrase là, que vous avez prononcée. Vous avez dit « il a été exécuté » et puis après, vous avez dit « il a été assassiné ».
Absolument.
Et en fait, suivant le point de vue, oui, c'est une exécution.
Il a été exécuté par des hommes, mais moi, je pense que c'est un assassinat, effectivement. Ouais.
Fernando Aramburu, vous écrivez en espagnol, hein, je l'ai dit, mais vous êtes bien originaire du Pays Basque. Est-ce que votre roman, vous pensez que c'est une contribution littéraire, artistique, à la construction d'une certaine histoire, d'une certaine mémoire basque?
Bueno, sí lo creo, aunque sea una contribución
modesta.
Oui,
je le crois, même si ma contribution reste modeste.
Pero es evidente que mi novela
Mais
no habría
il est clair
sido
que mon roman n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu une histoire collective et qui ne vient
personal.
Pas de mon imagination.
De todos modos, tampoco siento que debo suplantar
en plus,
al historiador,
je
al
ne me vois pas remplacer l'historien, le sociologue, ce n'est pas mon rôle.
Je
travaille vraiment sur la fiction. Ce que moi je propose, c'est le fruit de mon imagination que je couche sur le papier. Ce n'est pas totalement fictif. Évidemment, je reprends des éléments de l'histoire collective. Et
comme tout hecho de fiction,
il essaie de répondre à cette question. Comment a-t-on vécu dans un lieu précis, à une époque précise?
Quand vous dites ça, comment a-t-on vécu dans un certain lieu à une époque précise? On n'est pas loin non plus de la démarche de l'historien qui fait un certain nombre de recherches aussi pour savoir précisément comment on vivait, quelles étaient les habitudes des gens dans un lieu donné.
Non, en realidad, l'historiador opera con datos,
à mon sens, l'historien s'appuie sur des données qu'il vérifie, qui n'appartiennent pas du tout à ce qui retourne du privé. Lorsqu'on lit un livre d'histoire, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et l'historien a le droit d'interpréter ces données qu'il a réunies. Mais dans un roman, c'est beaucoup plus proche de l'émotion. Et c'est pour ça, lorsque je vous dis, cela raconte comment on a vécu quelque chose, cela reste seulement possible si l'on prend la perspective subjective d'un individu, comment l'a vécu un homme âgé, comment l'a vécu un enfant ou comment l'a vécu une femme. C'est un peu comment les subjectivités nuancent l'histoire qui, au final, est une histoire collective.
Patria a été beaucoup lu en Espagne, hein, je rappelais, 600 000 exemplaires, et dans le Pays Basque. Comment a été l'accueil précisément dans le Pays Basque? Est-ce que ça a fait l'objet de débats, de discussions, de controverses?
Ben, yo he presentado mi novela Patria en todas las capitales del País Vasco.
Donc, l'intérêt était énorme. Les gens étaient très intéressés. Les endroits, les auditoriums où j'ai été étaient remplis, bondés. Les gens n'arrivaient plus à rentrer. Et je sais, et ça a été dit, c'est mon éditeur qui me l'a dit, les chiffres dans le Pays Basque ont été beaucoup plus élevé que dans d'autres lieux d'Espagne. Et j'ai pu vérifier que le livre a pu faire naître un débat, comme vous en parliez. Et c'est vrai que j'étais heureux de voir que c'était un débat raisonné et totalement pacifique. Ce qui vient à montrer que la société basque a beaucoup changé et dans le bon sens, de façon très positive, où il reste maintenant possible de se lancer dans une controverse sans qu'on s'insulte, sans inimitié, même sans que la violence soit présente.
Alors c'est étonnant parce que selon les sondages, l'ETA n'est plus un sujet de préoccupation que pour 3 à 4% des 2 millions de Basques espagnols. Et il a été étudié d'ailleurs que les jeunes générations ne savent pratiquement rien en fait de ce conflit qui a divisé pratiquement toutes les familles du Pays Basque, brisé énormément d'amitiés, contaminé aussi toute la société. Est-ce que ça ne vous gênait pas, en vous lançant dans Patria, de rouvrir des pages que peut-être les gens voulaient tourner ?
En fait, je vais vous dire, je dois avouer que j'ai vraiment écrit contre cet oubli un peu trop rapide, qui est plutôt favorable à l'agresseur, parce qu'il permet que l'on ne parle pas de toutes les atrocités qui ont pu être commises, mais également, je pense que c'est très humain, notamment que les jeunes s'inscrivent dans le présent, les gens ont leur vie, leurs préoccupations, leurs obligations. Et l'idée, au final, est de créer comme une banque, comme une librairie de la mémoire, avec des livres, des films, des photographies aussi, tout type d'éléments. Et ainsi, les citoyens, les gens, aujourd'hui mais à l'avenir, pourront consulter ces éléments s'ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et c'est ça, c'est tout l'élément pour créer une mémoire et pour créer un récit. Mais moi, je ne veux pas reprocher aux jeunes leur façon de voir les choses. Quand j'étais jeune, la politique espagnole ne m'intéressait pas non plus énormément. Hein.
À 18 ans, vous avez dit que vous aviez personnellement été pris d'une pulsion d'engagement du côté de la cause basque.
J'ai jamais été tenté de tomber dans le nationalisme parce que souvent, parce que le moyen utilisé était la violence. Et pour moi, cela fermait définitivement la porte au nationalisme. Mais comme nombre d'autres jeunes, c'est vrai que j'ai été confronté à cette doctrine, à cette pression qui existait, à cette tentation très esthétisante qu'était le nationalisme. Et c'était difficile de ne pas se positionner face à cette violence.
Serge Chalandon, vous nous l'avez expliqué d'ailleurs, Dennis Donaldson, qui est donc le modèle de votre de Tyrone, votre personnage, c'était un de vos amis. Est-ce que vous comprenez quand Fernando Aramburu explique qu'il essaie de faire au fond une banque de mémoire pour essayer de comprendre que le roman pourrait être aussi un outil de mémoire? Vous, quand vous avez appris dans le journal que Donaldson, donc votre ami, avait trahi, vous l'avez dit, littéralement effondré. J'ai lâché le journal, je me suis assis lourdement, couché sur le dos, tête heurtée contre le sol dans un silence blanc. Est-ce que Mon traître puis Retour à Killybegs ont aussi été écrits pour fournir une banque de compréhension ou c'est une autre intention ?
Je pense que j'ai écrit Mon traître parce que je souffrais. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas un livre sur Dennis Donaldson, c'est un livre à cause de Dennis Donaldson. Ce qu'il m'importe de faire, c'est de parler du traître maintenant, c'est de mettre à la place du traître, et pour le coup, profiter, entre guillemets, je n'aime pas le mot, mais je n'en trouve pas d'autres, profiter de la vie de ce traître, qui naît donc à Killybegs dans les années 20, etc. Je parle de la guerre, la seconde guerre mondiale, je parle de la fin de la guerre, je parle des débuts des combats entre le nord et le sud, etc. C'est-à-dire que, pour le coup, profiter de cette guerre pour revisiter l'histoire de l'Irlande.
Et aider à faire comprendre le mot que Fernando Aramburu a utilisé, compréhension.
En tout cas, dire aux gens, un traître, ça peut être un homme formidable qui a baissé les bras. Un traître, ça peut être votre voisin. Même Jésus était mal entouré, comme vous le savez. Et c'est juste que je ne supporte pas les gens qui me disent, voilà, moi pendant la guerre, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. J'aurais été un tel, j'aurais été celui-là. Et je ne supporte pas ça. Et moi, c'était juste un livre pour dire, méfions-nous de ce qu'on prétend lorsqu'on est en paix. Lorsque la guerre arrive, elle peut faire de nous autre chose.
Donc compréhension de l'âme humaine, finalement, plus que de l'histoire.
Oui, je crois. C'est-à-dire que je pense, si je peux me permettre, que l'Irlande, pour le coup, est le théâtre d'un drame humain.
On va poursuivre avec vous deux, Serge Chalandon et Fernando Aramburu, et voir comment la littérature se débrouille avec ces pans d'histoire extrêmement compliqués, extrêmement violents. On va explorer l'univers de Patria avec vous, Fernando Aramburu, mais d'abord on écoute votre choix musical. Vous avez choisi la valse triste de Sibelius.
Thank you.
Valse triste de Sibelius, interprétée par Aldo Ciccolini. C'est le choix de Fernando Aramburu, l'auteur de Patria, livre absolument phénoménal en Espagne. Plus de 600 000 exemplaires vendus, présenté comme le Guerre et paix du Pays Basque, et qui nous raconte le destin de deux familles, de deux mères d'ailleurs, dont l'une a perdu son mari, assassiné par l'ETA, peut-être par le fils de l'autre. Mère. Donc c'est aussi un livre où les figures maternelles comptent énormément. D'abord un petit mot, Fernando Aramburu, puisque nous passons cette heure ensemble et en compagnie de Sor Chalandon aussi, qui est en face de vous. Pourquoi ce choix musical ?
Alors, lorsque j'écris, je n'écoute pas de musique. Jamais. La musique est bien trop importante pour moi pour faire autre chose au moment où je l'écoute. Non, j'ai choisi cette musique parce qu'elle me relaxe.
Et
je savais qu'il fallait parler en même temps que la musique allait passer. Alors je me suis dit, je prends une musique dans laquelle je me sens bien.
En première partie de cette émission, je vous ai posé une question, Fernando Aramburu, sur quelque chose que j'avais lu dans la presse française qui répercutait la presse espagnole, où vous auriez dit, et je voulais qu'on éclaircisse vraiment ce point ensemble, où vous auriez dit qu'à l'âge de 18 ans, vous aviez été tenté vous-même de prendre les armes, qu'il y avait cette esthétique romantique qui vous avait morbidement aimanté, l'idée de pouvoir devenir un héros se sacrifiant pour le soi-disant peuple opprimé. Vos mots étaient présenté comme ça, mais vous me disiez là que c'était pas exactement votre jeunesse, c'était pas exactement celle-là. En fait, il n'y a pas eu de tentation de la lutte armée pour le jeune basque que vous étiez.
Je vous remercie beaucoup de me permettre de clarifier cette phrase. Je n'ai jamais été tentée de faire mal à personne. Et j'ai même dit en public que j'en suis d'ailleurs très fière que ce gamin de 15-16 ans, qui a été exposé comme beaucoup d'autres à cette doctrine et qui défendait la lutte armée, eh bien, jamais je n'étais convaincue par cette doctrine. J'ai aussi dit que j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents très présents. J'ai grandi dans une grande ville où on n'arrive pas aussi facilement à contrôler la population, contrairement à un petit village, comme je le relate. Et surtout à l'âge de 15-17 ans, j'aimais les livres, j'aimais la culture, j'étais intéressée par d'autres langues et j'étais suffisamment vacciné contre le fanatisme.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on voudrait parfois que les livres nous protègent de la violence. Or, on a vu dans l'histoire des gens extrêmement cultivés qui étaient aussi de parfaits, si je peux utiliser cette image, de parfaits bourreaux. Parfaits dans le sens où ils étaient bourreaux de façon excellente. Évidemment, c'est une façon de parler. Vous pensez que les livres aussi vous ont empêché, vous quand même, de basculer du côté de la lucha armada, comme vous avez dit?
En mi caso, sí. Me vacunaron.
Dans mon cas,
definitivamente.
Oui. Un vaccin définitif.
Pero es cierto que leer no es.
Mais
la
je suis d'accord avec vous, la lecture ne guérit pas tout.
Además,
et puis, il faut garder à l'esprit que ces mouvements totalitaires sont dirigés et contrôlés par des gens extrêmement intelligents et souvent avec un très haut niveau culturel.
Précisément dans ce livre, Patria, dont je disais 600 pages, où s'entrecroisent, d'ailleurs la critique espagnole a parlé de deux rails en fait, deux rails parallèles, le rail ETA, la famille engagée dans le terrorisme, et puis la famille victime, même si c'est un débat compliqué, on en parlera avec vous, Sor Chalandon, qui est le bourreau, qui est la victime. Deux familles, deux personnages de mère. Quand le livre commence, l'ETA déclare qu'elle renonce à la lutte armée, et cette décision engage l'une des femmes, qui s'appelle Bittori, qui a perdu son mari, assassiné par l'ETA parce qu'il tardait un petit peu à payer l'impôt révolutionnaire, engage finalement Bittori à revenir dans le village où son mari est mort. Dans ce village vit une autre femme qui s'appelle Mirène. Mirène a un fils en prison, un fils qui s'est engagé, lui, dans les rangs de l'ETA. Et ce fils est soupçonné d'avoir tué, justement, le mari de l'autre. Donc c'est une amitié entre deux familles qui a été brisée par la lutte armée, par le terrorisme. Vous avez choisi d'incessants allers-retours entre le passé et le présent, de courts chapitres qui vraiment se braquent sur l'intimité, les sentiments, l'humanité de ces deux familles. Et il y a au centre, il faudrait commencer par là, ce mot de patria que vous avez choisi pour intituler votre livre. Quel sens faut-il donner à ce mot, à ce titre? Et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure si c'était un livre qui parlait de l'Espagne ou seulement du Pays Basque. C'est quoi la patria?
La patrie peut être interprétée de diverses façons. C'est un mot que je n'aime pas tellement. Bizarrement, mon livre a été publié dans d'autres langues en évitant de traduire le titre. Ce qui est étonnant, par exemple, en français, ou en allemand, ou en polonais. C'est un mot qui vous met mal à l'aise. Il faudrait peut-être plus de temps pour rentrer dans une explication plus ample. Mais je vais résumer. Je crois que dans les gènes humains, il y a une volonté, une nécessité de s'identifier à l'espace dans lequel on a les émotions, que ce soit une langue, la musique, de la cuisine, une équipe de football. Sí, c'est très humain. Alors le problème commence lorsque ces émotions prennent une tournure politique, voyez-vous, lorsque ça devient un critère où l'on peut faire la différence entre des gens, ou alors une utopie à laquelle tous doivent se joindre, qu'ils le veuillent ou pas d'ailleurs. Alors, la patrie dont je parle, c'est le Pays Basque. Et quelques que soit le personnage que l'on voit dans le roman, eh bien, c'est compris d'une façon ou d'une autre. Mais de toute façon, je dirais que pour l'ensemble de ces personnages, ils se trouvent dans cette patrie, ils se trouvent dans cet espace. Et c'est pourquoi j'ai donné ce titre à ce roman.
Là, vous parlez d'un espace, donc la patrie serait géographique. Est-ce que ce n'est pas aussi une patrie linguistique? Dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Gorka, qui est le petit frère, justement, du terroriste donc, qui est en prison. Et Gorka, c'est un littéraire qui est dépris de poésie en langue basque, qui désapprouve l'engagement armé de son frère. Et ce qui est curieux, curieux ou pas d'ailleurs, c'est que son grand frère finit par accepter le goût pour l'écriture de son petit frère, dans la mesure où, selon lui, ça sert aussi la cause de l'indépendance. Il lui dit « Vas-y, force sur l'euskera, c'est aussi une partie de la lutte, un argumentaire simple, brusque, élémentaire. José Mari serait la hache et Gorka, le serpent, un bon couple. » Est-ce que pour vous, Fernando Aramburu, les deux personnages sont, comme le dit José Mari, les deux revers d'une même médaille, la hache et le serpent, pour reprendre l'image symbole de l'ETA, finalement, une même lutte par les armes et une lutte par la langue?
À
mon sens, la langue devrait être écartée quand on rentre dans la lutte
ou
la défense. Le basque est bien antérieur à l'usage politique qu'on en fait à l'heure actuelle, en fait. Le basque est une langue magnifique
et
c'est un instrument de communication, mais aussi c'est un instrument de création artistique et culturelle. Et moi, je trouve que c'est magnifique qu'on l'enseigne dans les écoles, qu'on le travaille et qu'on le développe. Et le pire qui peut arriver avec une langue, c'est en faire un instrument politique, que ce soit un critère qui permette de différencier les citoyens. Je crois que le basque, l'euskera, est un trésor et il faut le soigner.
Je suis évidemment totalement d'accord avec ça, mais il y a des gens qui se servent parfois de la langue pour faire un objet ou un instrument politique. Beaucoup d'Irlandais, par exemple, avant la partition de l'Irlande en 1920, ont combattu parce que les Britanniques interdisaient la langue irlandaise. C'est-à-dire que, pour le coup, les Britanniques interdisaient que l'irlandais soit utilisé dans la rue, dans les écoles, etc. Donc, il se trouve que là, que les Irlandais l'aient voulu ou non, la langue est devenue le véhicule de la révolte. Mmh.
D'ailleurs, on le voit actuellement en Espagne aussi, ou en Catalogne, où à l'université, on est sommé de parler catalan. L'espagnol n'est pas du tout... L'enseignement n'est pas du tout en espagnol. Alors, justement, d'ailleurs, une question. Est-ce que l'Espagne, Fernando Aramburu, dont on a vu récemment encore les problèmes identitaires suite au référendum catalan, ou quand on entendait par exemple les accusations de franquistes lancées à la Guardia Civil, est-ce que vous pensez que l'Espagne, même si votre livre a suscité des débats pacifiques, est-ce qu'on peut craindre un délitement de l'Espagne? Est-ce que le romancier que vous êtes sent ces signes-là, ou c'est finalement un point de vue très français?
L'histoire de l'Espagne depuis le Moyen-Âge n'a pas changé. Elle reste la même. L'Espagne est un groupe de régions, de royaumes, d'autonomies plus ou moins mal agencées. Et je dirais d'ailleurs que le chancelier Bismarck disait que l'Espagne, depuis des années, a essayé de se suicider, mais n'y arrive jamais.
On a parlé de miroir quand le livre est sorti en Espagne, rendant possible, donc c'était plus qu'un livre, d'ailleurs vous l'avez dit, hein, vous, Patria a cessé d'être uniquement une œuvre littéraire pour se transformer en autre chose. On a parlé de catharsis. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le roman, le vôtre, hein, mais que le roman, on parlait d'armes tout à l'heure, est une arme, peut-être une arme, permettant de parler de choses qui, finalement, sans cette arme-là, ne pourrait pas être dite?
Oui, je le crois vraiment. Mais je reviens sur ce que je disais. Le roman vous permet d'avoir une lecture d'émotion, et c'est la grande différence. Mais je ne crois pas qu'un livre va changer la société, ou que ce soit son rôle. Mais s'il est lu massivement, il peut permettre de lancer des débats, de créer des discussions, où il peut changer les consciences de manière positive. Et puis il ne faut pas perdre de vue qu'un livre sort de manière totalement solitaire. Les gens ne se réunissent pas tous pour lire ensemble un roman en communauté. C'est toujours une lecture qui se fait entre celui qui l'a écrit et celui qui prend le livre. Et puis je voudrais aussi vous rappeler que la partie esthétique dans un roman reste un élément essentiel. Et franchement, et je ne me sens pas légitime au moment de commenter ce qui a été dit sur mon roman.
Précisément, vous avez parlé de la dimension esthétique et la dimension narrative. Ce roman-là, il multiplie les points de vue. C'est une succession de courts chapitres. Et par exemple, on a les deux mères dont je parlais, il y a les enfants qui parlent d'autres personnages. On a l'impression du coup que par cette construction, vous entendez montrer que cette catastrophe collective, au fond, elle est aussi, avant tout aussi, une addition de destin individuel, en fait, et de perception individuelle. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette construction en multiples points de vue, sans arrêt, d'une famille à l'autre, d'un personnage à l'autre?
C'est tout ce qui m'intéresse. Et voir comment ces gens ont pu vivre, des gens très précis à une époque donnée. Je n'ai pas écrit pour démontrer une thèse, pour défendre une thèse. Je ne juge moralement personne. Je n'ai pas écrit pour expliquer quelque chose. Dans mon roman, il n'y a pas de prologue. Elle n'est dédiée à personne. Enfin, mon roman n'est dédié à personne. Ce sont des épisodes, ce sont des moments de vie d'hommes, de femmes, d'adultes et d'enfants.
Comment vous avez travaillé, Fernando Aramburu? Quelle a été la part, on en parlait avec Serge Chalandon tout à l'heure, mais de journalisme ou de travail préparatoire dans l'écriture de ce livre? Est-ce que vous avez interrogé, interviewé des gens, des témoins, puisque vous vivez en Allemagne depuis l'âge de 26 ans? Comment vous avez procédé pour ramasser toutes ces histoires?
Je les ai inventées, ces histoires, pour vous dire la vérité. Mais il y a une réalité derrière, qui est en fait l'expérience que j'ai vécue. Ce que je fais, c'est que je prends des décisions techniques, et après je me lance sans savoir vraiment où je vais et ce que je vais raconter. Non, la seule chose qui était claire pour moi, c'était la fin. La fin était claire et tout le roman vous emmène jusqu'à cette conclusion.
Et
Patria, c'est mon neuvième roman, J'ai un peu d'expérience, on peut dire. Et ma manière de travailler ne se fait pas à travers un schéma ou quelque chose qui est déjà bien établi, mais je mets ensemble des personnages que je sépare bien.
Est-ce que le modèle de la tragédie, on en parlera avec Sœur Chalandon et Antigone, a été présent justement esthétiquement dans l'écriture de ce livre? Évidemment, quand on vous lit, on peut penser à des schémas narratifs de type tragédie grecque. On pense aussi à Shakespeare avec ces deux familles finalement dont l'amitié est fracassée, dont cette rupture se déploie sur plusieurs générations, le fils de l'un tuant le père de l'autre. On est presque chez Corneille, chez le Cid de Corneille. Est-ce que ce modèle classique finalement, ce modèle tragique a été important?
Je crois qu'on a déjà tout dit dans la littérature, tout a été inventé, mais je voudrais quand même vous dire que les deux familles de mon roman ne sont pas séparées comme les blancs et les noirs sur un plateau d'échecs. Non, il y a des nuances, c'est vrai que les deux mères s'affrontent. Mais le reste, les autres membres des familles ne s'affrontent pas, il y a des contacts entre les familles, c'est beaucoup plus nuancé.
Donc ça n'a pas du tout été un modèle. Vous disiez tout a été dit, vous n'avez pas été porté par ces modèles tragiques.
En fait, ça n'aurait pas changé grand-chose si j'avais eu un modèle de tragédie.
J'ai lu, alors voilà, vous allez me dire si j'ai eu raison de lire ça ou pas, ou si vous ne l'avez pas dit, que vous vouliez être, en écrivant ce livre, être partie prenante de la déroute culturelle de l'ETA. Alors, est-ce que vous avez dit ça, déjà?
Non. Aqui hay una cuestión que...
Bon, voilà, la presse française, ça ne va plus.
Non, il y a un élément très important.
Et tiene que ver con el hecho estético.
Et c'est vraiment l'esthétique qui prime.
Por ejemplo, yo recuerdo el Guernica de
Picasso. Je me souviens le Guernica de Picasso.
Il y a une très bonne exposition en ce moment, d'ailleurs.
Sí. El Picasso.
Si vous regardez le tableau de Guernica, à l'époque de Franco, et dans mon livre d'histoire, il était présenté, à l'époque de Franco. Et à 9 ans, je savais qui étaient les méchants.
Présenté dans les livres, parce que le tableau n'est arrivé qu'après la mort de Franco. Hein. Picasso avait exigé que tant que Franco serait vivant, le tableau n'entrerait pas en Espagne.
Non, mais il y avait des reproductions quand même. Et on avait tous des reproductions, enfin on avait déjà vu le tableau. Ce que je vais vous dire, c'est que sans avoir lu des livres d'histoire, le tableau expliquait très clairement et avait imprimé quelque chose dans ma conscience. Alors, c'est vrai qu'un livre d'histoire, on peut critiquer. Un argument philosophique, on peut le critiquer. Mais une œuvre esthétique, on ne peut pas la critiquer. Enfin, on ne peut pas revenir sur ce qui est dit. On peut en mettre une à côté. Mais au final, non. Et puis, si vous réussissez votre objectif et vous rendez cette œuvre esthétique à une œuvre classique et qu'elle a toujours un sens pour les autres, pour les générations à venir, voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est laisser quelque chose dans la mémoire.
Oui, mais précisément, dans l'exemple de Guernica, il y a une intention politique claire de Picasso. Il l'a dit, il l'a redit. Certes, c'est un tableau, mais c'est un tableau qui est présenté dans le pavillon de la jeune République espagnole à Paris, avec d'autres artistes, d'autres œuvres d'art, et lui a toujours considéré aussi que c'était la grande affaire de sa vie et que c'était une œuvre politique pour justement toucher le maximum de gens. D'où les schémas, le guerrier mort, antique, couché, les symboles de l'Espagne. Il l'a conçu comme une œuvre politique. Pas vous.
En plus, je m'en fiche de ce que dit Picasso, mais non, c'est pas le cas. Non, l'important pour moi, c'est ce que moi je vis quand je vois le tableau. C'est ce que je ressens quand je vois le tableau. Bien évidemment qu'il y a des écrivains qui vont essayer et essaieront de présenter d'une façon très positive ce qu'a été l'ETA. Au regard de l'histoire, le livre, bien évidemment, est le fruit d'une perspective. Et le livre est une version qui sera confrontée à d'autres versions. Mais il y a des versions qui sont peut-être plus persuasives ou qui réussiront à convaincre plus de gens.
Sœur Chalandon, je demandais tout à l'heure à Fernando Aramburu comment il avait travaillé, s'il avait enquêté, s'il avait interviewé. Sans votre part journalistique de votre cerveau, enfin votre mode peut-être un des hémisphères, vous n'auriez pas pu écrire Montraître finalement sans votre passé de journaliste, Montraître et Retour à Quilibet.
Non, je pense que le journalisme m'a simplement permis d'aller dans des endroits où je ne serais pas allé. je n'aurais jamais été au Liban si je n'avais pas été journaliste. En Irlande, je n'avais pas. Donc je ne me suis pas dit, tiens, moi, le journaliste, je vais écrire des choses. C'est grâce au journalisme, je suis allé dans des endroits où il m'est arrivé des choses en tant qu'être humain. Et c'est l'être humain qui écrit des romans. C'est
parce
pas le journaliste.
Que ce qui est très important, c'est que vous avez commencé à écrire, finalement, à publier des romans après, en
Absolument.
Fait, votre activité. Il n'y a pas eu de chevauchement, parfois.
Oui, bien sûr. Non, en fait, j'ai commencé à écrire pour le roman, pour la fiction, quand je suis revenu en paix et quand je me suis aperçu qu'il m'a manqué quelque chose pendant tout le temps du journalisme, c'est le droit de dire « je ». Le droit d'employer la première personne du singulier.
Les Américains le faisaient dans
les
la
Américains
grande tradition.
Il y a eu un nouveau roman qu'ils faisaient aussi, mais sincèrement, quand dans un journal...
Un nouveau journalisme.
Nouveau journalisme, absolument, pas nouveau roman, bien sûr. Sincèrement, quand dans un reportage, les 70 premières lignes, le journaliste qui a passé un front de guerre explique qu'il a eu du mal, je m'en fous. C'est son boulot. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est qu'il me raconte ce que vivent les gens qui y sont. J'ai pas envie qu'il me raconte comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là. Ce jeu-là, moi, je me le suis interdit toujours, et il m'a manqué. C'est-à-dire que quand je suis rentré à Sabra et Shatila, par exemple, le massacre des Palestiniens par les milices chrétiennes au Liban en septembre 82, j'ai fait des articles, évidemment, mais j'ai parlé des larmes des autres, de la tristesse des autres, de l'effroi des autres, des Palestiniens. Mais ma tristesse, mon effroi et mes larmes, j'en fais quoi, moi? Ben, j'écris un roman.
On va continuer avec vous, Serge Chalandon. Mon traître est en effet l'histoire de ce terrorisme irlandais qui a aussi endeuillé une partie de l'Europe. Il se double d'un autre livre, Retour à Killybegs, qui est la même histoire. On parlera aussi d'Antigone, puisque nous évoquions avec Fernando Aramburu les schémas de la tragédie, puisque Antigone est au cœur du quatrième mur, l'un de vos autres livres, qui se passe au Liban. Antigone est joué par justement toutes les confessions, toutes
les parties. Tenter de le monter.
Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Pourquoi?
Vous verrez, parce qu'il parle de l'Irlande à l'intérieur. C'est une chanson qui dit que la paix ne nous permet pas de savoir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on a dans notre ventre, qu'est-ce qui est caché dans notre ventre. Un héros, un salaud, un bourreau. Seule la guerre fait ressortir ça.
On écoute Né en 17 à Leidenstadt par Jean-Jacques Goldman.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir ton humain? J'étais né blanche et riche à Johannesburg, entre le pouvoir et la peur, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant.
J'ai cru, Serge Chalandon, que vous alliez finir dire avant sur les mots de Jean-Jacques Goldman. Vous avez failli.
Ce qu'on a vraiment dans nos ventres. Voilà, caché derrière les apparences.
Ouais. C'est la guerre qui nous permet de savoir si on aurait été un traître ou pas, selon vous.
Oui, c'est-à-dire que ceux qui en parlent avant ne savaient rien. Et moi, sur les fronts notamment, ou dans des conflits, je me suis toujours aperçu que le petit bonhomme dans son coin, la petite bonne femme dans son coin, qui ne payait pas de mine, était le héros. Celui qu'on n'attendait pas du tout.
Né en 17 à Leidenstadt, on a écouté Jean-Jacques Goldman, je le dis pour Fernando Aramburu, immense star en France, un peu caché, donne assez peu d'interviews, Jean-Jacques Goldman.
Il a le droit,
évidemment.
C'est ça, ouais.
C'est le choix musical de Serge Chalandon. On a conçu cette émission pour parler de la violence politique, de l'engagement aussi des hommes. Donc on a parlé de Patria avec Fernando Aramburu, ce roman qui a bouleversé l'Espagne, sur le roman Le Guerre et Paix du Pays Basque, a-t-il été écrit. Et avec vous, Sor Chalandon, on va parler de l'Irlande, pas seulement de l'Irlande. J'aimerais qu'on revienne quand même aussi sur votre parcours. Vous avez, pour le journal Libération, été reporter, puis grand reporter. Vous avez couvert les événements, voilà, comme on dit parfois, au Liban, en Iran, en Irak, en Somalie, en Afghanistan et en Irlande du Nord. Vous avez publié ensuite plusieurs romans liés ou non à ces territoires, Le Petit Bonzi et La Promesse, Prix Médicis 2006, Mon Traître, donc, qui s'inspire de ce que vous avez vécu en Irlande du Nord, roman qui a été suivi en 2011 de Retour à Killybegs, Grand Prix du roman de l'Académie française, qui reprend le même sujet, mais en changeant de point de vue, puisque c'est le dit traître qui s'exprime. Ce roman était inspiré par la figure de Dennis Donaldson, figure de l'IRA et du Sinn Féin, qui travailla en fait pour le MI5 et qui raconte ce que fut sa vie avant d'être assassiné dans la maison paternelle. Au-delà de ces deux livres, vous avez écrit sur la résistance et les mensonges qui lui sont liés dans La Légende de nos Pères, et puis ce quatrième mur sur la tâche utopique de monter Antigone, la pièce de Jean Anouilh, dans Beyrouth en guerre, avec des acteurs issus des différentes factions politiques et religieuses impliquées dans le conflit. Et puis, il y a eu Le Jour d'avant aussi, l'année dernière, dédié à la mémoire de ces 42 mineurs qui perdirent la vie dans la catastrophe du 27 décembre 1974 à Liévin, et qui met en scène un homme qui a perdu son frère dans la catastrophe et qui, devenu adulte, refait sa vie sans jamais cesser de ruminer sa vengeance. Au fond, on a à chaque fois l'impression que vos romans sont des livres sur le conflit, les conflits qui se jouent dans l'âme humaine. Diriez-vous que c'est vraiment la guerre, plus que le journalisme, la guerre dont vous nous parliez, qui a engendré l'écrivain que vous êtes devenu, le romancier pour le coup, celui qui utilise la fiction et pas seulement le réel?
Alors ça va paraître très, très étrange, mais je pense que ce qui a ancré la fiction en moi, en fait, c'est mon père, qui était un mythomane immense, qui est mort en hôpital psychiatrique.
Vous avez écrit Profession du Père, je ne l'ai pas rappelé aussi.
Et qui, sa vie durant, s'est inventé des métiers, des exploits, etc. Donc moi, je suis né dans un roman, en fait. Je suis né dans un père qui était professeur de judo, qui avait créé les Compagnons de la Chanson, qui était agent secret, qui est l'un des derniers qui a échappé à la poche de Dien Bien Phu. Tout ça était évidemment faux, mais quand on a 12 ans, on croit tout ça. Donc moi, je suis ressorti de mon père, ce héros. On m'apercevant finalement mon père, ce salaud, puisqu'il y avait de la brutalité et de la violence. Et moi, je suis donc né dans un lieu où j'avais du mal à percevoir la réalité et la fiction, de faire la différence. Je crois que je suis entré en journaliste à la recherche de la vérité, donc pas une phrase fausse qui a été prêtée, voilà, je veux dire, par la presse française ou espagnole, mais en tout cas moi je me suis intéressé aux vraies phrases, donc aux vrais gens, donc aux vrais faits, et je pense que j'ai cherché dans le journalisme à me séparer de ce que mon père m'avait inculqué, c'est-à-dire une frontière extrêmement floue entre le mensonge et la réalité. Mais après, le journalisme m'a emmené dans des endroits où effectivement, et ça c'est moi, ce sont des romans de blessures. Donc j'ai été blessé par la guerre, j'ai été blessé par la trahison, j'ai été blessé par mon père, j'ai été blessé par plein de choses. Et à chaque fois, je me suis dit, j'ai pas envie qu'on pleure sur moi, ça ne m'intéresse pas, mais ces blessures nous sont universelles. Qu'est-ce qu'être trahi? Qu'est-ce qu'être élevé par un fou? Qu'est-ce que avoir rencontré la guerre pour la première fois? Et j'ai eu envie, alors c'est pas de la catharsis, c'est pas non plus l'envie de que les gens connaissent, mais c'est l'envie de partager. J'ai eu envie de partager qu'est-ce qu'un traître? Comment on fait pour avoir été trahi, c'est vrai. Comment on fait après avoir été trahi? Mais qu'est-ce qu'un traître? Comment est-ce qu'on en arrive à trahir? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que la guerre entre les hommes, c'est la guerre en moi et en soi qui m'intéresse.
Je voudrais qu'on vous entende lire, Sor Chalandon, un extrait de Mon Traître. Justement, c'est intéressant puisque cette figure, justement, ce combattant, ce grand chef de l'IRA, appelle le petit Français, qui est un luthier dans le roman, qui n'est pas journaliste.
Je m'appelle Antoine.
Il appelle Son.
Il appelle Sand
à chaque fois. Donc on retrouve en fait cette modalité père-fils.
Alors justement cette modalité père-fils, mais bon, seuls ceux qui savent tout sauront et auront compris. Mais en fait, j'ai saupoudré mon père dans chaque roman, par exemple. Mais le vrai traître, Dennis Donaldson, a été assassiné, il avait 55 ans. Et mon traître du roman, qui s'appelle Tyrone Meehan, a été assassiné à 81 ans. C'était l'âge de mon père. Donc j'ai donné à Tyrone Meehan, au traître, les traits de mon père. Je pensais que mon père le verrait, il s'en est pas aperçu du tout. Et donc là, c'est le traître, c'est Tyrone Meehan, qui regarde en boucle The Informer, le film tiré, enfin le film de John Ford, et qui dit au petit français qui lui parle de ce film-là. Tu te souviens de ce gars, Guy P. Nolan? C'est lui qui a vendu son copain Frankie McPhillips aux Anglais. Tu sais, j'ai beaucoup revu ce film. J'avais acheté la cassette à Dublin et je l'avais caché dans un coussin du canapé. Je me la repassais souvent quand j'étais seul. Et tu sais quoi? Pour moi, le moment le plus émouvant, c'est le visage de Nolan devant la publicité d'une compagnie maritime qui proposait l'Amérique pour 10 livres. Tu te souviens de ça, petit français? J'ai dit oui. Nolan, tu vois, il était miséreux, il buvait. Son seul trésor s'appelait Cathy, une pute de Dublin, seule et pauvre comme lui, et qui voulait l'emmener en Amérique. Tu te souviens? Oui. Et les yeux de Nolan devant la vie de recherche anglais, tu t'en souviens? Sur l'affiche, il y avait le visage de McPhillips, son ami, et 20 livres écrits en gros. Tu vois, 20 livres, juste ce qu'il fallait pour l'Amérique à deux. Tyrone Meehan était revenu à la table, j'ai sursauté aux trois coups de klaxon, Sheila était arrivée. Tu sais pourquoi je te raconte tout ça? Non, parce que je ne suis pas Guy P. Nolan. Je ne le juge pas parce que c'est moi, Guy P. Nolan. C'est moi, ton Guy P. Nolan, petit français. On a tous un Guy P. Nolan bien planqué dans nos ventres. Personne ne naît tout à fait salaud, petit français. Le salaud, c'est parfois justement un gars formidable qui renonce. Et maintenant, il va falloir te battre contre le petit Guy P. Nolan qui est en toi, petit français. Contre le tien, celui que tu nous caches. Autrement, tu vas merder comme moi, tu vas finir comme moi et tu vas mourir comme moi.
Merci, Sœur Chalandon. Un extrait de Mon Traître, voilà, qui a plus de 10 ans, mais qui est toujours, aussi, voilà, dans votre ventre, et puis dans l'esprit de vos lecteurs aussi. Vous avez utilisé le mot salaud, et en fait, je pensais au roman de Aramburu, qui est une méditation aussi, il y aurait tant à en dire, sur le thème du pardon, sur le thème de l'amnistie. Bittori le dit à sa fille Nerea, pourquoi crois-tu que je suis toujours en vie? J'ai besoin de ce pardon, je le veux, je l'exige et je n'ai pas l'intention de mourir tant que je ne l'aurai pas obtenu. Tu as un orgueil gros comme une maison. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand vous aurez scellé la dalle et quand j'aurai retrouvé le château, je lui dirai « L'imbécile s'est excusé. Maintenant, nous pouvons reposer en paix. » Elle parle à sa fille. Elle veut le pardon du fils de l'autre famille qui a tué son mari. Est-ce que quand vous reprenez cette histoire dans Killy Beggs, aussi l'histoire du traître, est-ce que vous répondez aussi à ce besoin de pardon qui vous réunit aussi tous les deux aujourd'hui dans cette guerre?
Alors moi, d'abord, ce que je veux dire, c'est que au Pays Basque et en Espagne, comme en Angleterre et en Irlande, entamer un processus de paix, justement, c'est s'asseoir avec le salaud qui est en face. Dans les deux camps, on pense que celui qui est en face, c'est le salaud. Et négocier, c'est ça. Négocier, c'est s'asseoir avec le salaud qui est en face. Moi, j'ai connu notamment un camarade irlandais dont les protestants, les paramilitaires protestants avaient tué son fils. Et ce paramilitaire protestant, mon ami irlandais, a exigé de pouvoir parler avec lui, seul à seul, longtemps après, pour entrer en paix. Ils se sont isolés, ils ont parlé, et quand il a quitté la pièce, il a dit « Je pense que nous sommes mûrs pour la paix ». Donc je ne sais pas si le pardon est le mot qui convient, mais au moins avoir en face l'assassin, au moins avoir en face celui qui a fait, et au moins avoir en face l'homme qui a tenu l'arme, et peut-être pas le pardonner, mais l'avoir écouté. Le fait de l'avoir écouté sous un même toit, dans une même pièce, fait qu'on peut effectivement entrer en paix.
Qu'en pensez-vous, Fernando Aramburu?
Oui, me parece muy acertado.
Je trouve que c'est très juste. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il est, c'est très difficile d'avoir une théorie sur ce qu'est le pardon.
Et el perdón, para ser posible, tiene que
pour
ser sincero,
qu'il y ait un pardon, il faut que ce soit sincère. Et il faut que ce soit quelque chose de l'ordre de l'intime. Et à mon sens, il faut être en présence de celui qui doit demander pardon et celui qui doit donner ce pardon.
Mais
moi, j'apporterai une nuance.
Si el perdón,
je dirais que si le pardon...
De manière individuelle.
Même si c'est un pardon qui se donne de manière individuelle,
la répercussion
est connue par la société, il y a une répercussion très importante, une répercussion pédagogique pour la société. C'est un peu la preuve que nous retournons à notre humanité, nous pouvons à nouveau vivre ensemble.
Mais en même temps, je ne pense pas que le pardon puisse faire partie d'une peine exigée. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse demander à un terroriste, voilà, tu vas faire 10 ans de prison et demander pardon.
Mais ça, c'est pour elle. C'est pour elle, c'est le personnage, en fait.
Oui,
qui
oui,
veut
non,
ça,
mais
parce
je sais.
Elle va rejoindre son mari au paradis.
Mais non, mais c'est
et
sûr.
Et veut, par honneur
oui, oui.
pour lui.
Je sais, mais dans tous les conflits, on entend des gens qui disent, et on veut exiger des tueurs qui qu'il demande pardon. Je pense que cette exigence-là, elle est morale, mais elle n'est pas judiciaire.
Elle peut être aussi une forme de consolation.
Bien entendu.
Aussi,
bien entendu.
Pour terminer, je voudrais vous poser la question à tous les deux. La littérature, non seulement vous avez écrit des livres, mais la littérature est présente dans vos livres. Il y a ce jeune frère dont je parlais qui fait des œuvres en langue basque au lieu de prendre les armes. Et puis il y a Antigone dans le quatrième mur au Liban, Sorge Chalandon. Je voudrais savoir si ce pardon ou si cette catharsis, tout à l'heure Fernando Aramburu disait les livres peuvent pas changer le monde, peuvent pas changer
le théâtre non plus.
Mais en même temps, est-ce que vous n'y croyez pas un petit peu? Et quel est l'usage finalement de la littérature? On le voit, Patria a provoqué des débats pacifique quand même. Le quatrième mur, il y a ce rêve de rassembler tout le monde autour d'Antigone, donc celle d'Anouilh, mais qui elle-même reprend Sophocle. Au fond, c'est ce besoin de récit, ce besoin d'être, comme vous le disiez, en face du salaud, l'écouter et provoquer au fond un récit commun. Quelle est l'utilité, si elle en a une, de la littérature justement dans ces grands conflits fratricides que sont des guerres civiles, comme au Liban, comme au Pays Basque, comme en Irlande?
Alors moi, je pense que la littérature est une trêve poétique, mais j'ai peur qu'elle n'aille pas plus loin.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la littérature est une trêve poétique?
C'est-à-dire que je crois qu'un livre, je crois qu'une poésie, je crois qu'à un moment donné d'un combat, d'un conflit, cela peut apporter peut-être quelques instants de douceur dans un monde de brutes. Mais je ne vois pas le milicien refermer son livre en disant « Mais suis-je bête, il faut que je jette mon fusil ».
D'ailleurs, vous parlez des snipers qui récitaient « Et demain dès l'aube ».
Mais absolument.
C'est vrai que le quatrième mur vient de ce sniper à Beyrouth.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que à Beyrouth, il y avait un sniper chrétien qui m'avait demandé, je lui avais demandé pour le reportage d'être à ses côtés lorsqu'il tirait. Donc j'étais assis sur le sol, à ses côtés. Et entre deux tirs, il m'avait simplement demandé de ne pas lui parler. Jamais. Et entre deux tirs, tout d'un coup, donc il fait nuit, nous sommes au Liban, nous sommes sur une tour, il est en train de taper en face, et entre deux tirs, avec l'accent libanais, il me dit « Connaissez-vous Victor Hugo ?» Et je lui dis « Oui, je connais. » Et il commence « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » Et il récite comme « De ma vie, jamais, jamais, de ma vie, j'entendrai ce poème récité comme ça. » Il arrête et il tire.
Et il tue.
Ce jour-là, ce poème, il était magnifique, il a été raconté par un poète et par un bourreau.
Fernando Aramburu, quand vous entendez justement, quand vous disiez tout à l'heure, la littérature ne peut pas changer le monde, mais peut-être qu'elle peut provoquer quand même au moins des récits communs, quand on entend ce que vient de dire Sorge Chalandon, qu'un bourreau aussi est capable de réciter de la poésie, est-ce qu'on peut croire encore au pouvoir de la littérature?
O sea, yo creo que un ser humano no deja de ser humano nunca.
Je pense qu'un être humain reste toujours un être humain. Il ne perd jamais son humanité, quelles que soient les atrocités qu'il peut commettre. Un être humain est comme ça. Le matin, il embrasse sa mère. L'après-midi, il tue. Et le soir, il va caresser un chien. Et la littérature permet d'accéder d'une façon très complexe à la conscience des autres. Peut-être un petit nombre. Et je crois que c'est son rôle, en plus de créer aussi ce plaisir esthétique qui, à mon sens, est essentiel.
Merci beaucoup, messieurs. Merci Sorge Chalandon et merci Fernando Aramburu. Je me permets de citer donc vos œuvres. Sorge Chalandon, Mon traître, Le quatrième mur, Le jour d'avant, une œuvre qui s'est quand même créée dans la guerre et dans le conflit. Vous parliez de votre père tout à l'heure. Tout ça est chez Grasset, en livre de poche aussi. Merci Fernando Aramburu.
Enchanté, merci.
Voilà, j'appelle que Patria, donc est traduit de l'espagnol par Claude Bleton, c'est chez Actes Sud. Et merci Paloma Goulemeau d'avoir été l'interprète de Fernando Aramburu. Merci messieurs.
Merci à vous.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Naïd Lancio, Bernard Laniel à la technique, Luc-Jean Reynaud à la réalisation. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur France Culture. Cette émission sur la violence, sur la littérature, sur la politique aussi, avec Fernando Aramburu et Sorge Chalandon.